Vous écoutez Live Éthique, une émission proposée par Radio Éthique autour de l'actualité du développement durable.
Et nous sommes toujours en direct du Musée océanographique de Monaco et nous accueillons Philippe Mondielli. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II.
Tout à fait.
Alors, en quoi consiste l'émission de cette fondation, car nos auditeurs ne la connaissent pas tous, malheureusement.
Alors, il faut dire que cette fondation, c'est une toute jeune fondation, hein, puisqu'elle a été créée en 2007. Elle a trois missions, trois domaines d'action principaux, qui sont la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et l'accès à l'eau et la lutte contre la désertification.
Et vous menez en gros 200 projets, c'est ça ?
Voilà,
enfin, ont été menés en tout cas 200 projets depuis à peine sa création.
Voilà, c'est ça. 200 projets dans trois zones géographiques prioritaires qui sont évidemment le bassin méditerranéen, puisqu'on est au cœur du bassin méditerranéen, qui sont les pays les moins avancés et également les zones polaires.
Voilà, donc deux zones géographiques sur lesquelles vous faites particulièrement attention au niveau des projets qui sont retenus pour être soutenus par la Fondation Prince Albert II. Donc l'océan Arctique d'un côté et la Méditerranée, car chacun d'eux représente une source de biodiversité bien particulière.
Oui, tout à fait. En fait, au niveau des projets marins, évidemment, c'est les deux zones géographiques. Bon, c'est pas uniquement, puisqu'on s'intéresse à toutes les problématiques océaniques globales, mais aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux mers parce qu'elles sont particulières. Elles se ressemblent beaucoup, finalement, puisqu'elles ont déjà la même dimension, puisque au niveau de la zone arctique, toutes les eaux internationales, c'est à peu près la même superficie que la Méditerranée. Et donc, elles subissent toutes les deux aussi l'impact de l'homme. Et donc, il y a des bouleversements majeurs. Et donc, on a plusieurs projets qui permettent justement de suivre ces bouleversements et surtout de faire des propositions pour justement trouver des solutions pour protéger cette biodiversité.
Et ce bouleversement, c'est le changement climatique ?
Alors évidemment, c'est le changement climatique. Alors on comprend aisément qu'en Arctique, par exemple, c'est la fonte de la banquise. C'est une zone immense avec une biodiversité très riche qui a été préservée pendant des milliers d'années sous la banquise. Et là, en quelques dizaines d'années, la banquise fond et tout d'un coup, ces ressources biologiques extraordinaires sont à la portée de tous. Et donc, évidemment, notamment aussi des pêcheries industrielles. Donc, c'est un endroit un peu où il n'y a pas de réglementation encore. Et donc, c'est très important. C'est pour ça qu'on a des projets avec la Fondation pour mettre en avant justement la richesse de ces zones-là pour ensuite, à partir de cette connaissance, pouvoir édicter des règles qui puissent être appliquées et ainsi protéger cette biodiversité exceptionnelle.
Alors, le premier de ces projets, c'est lequel ?
Alors, le premier projet, c'est un projet que nous menons avec l'IUCN, qui est justement de faire un bilan de toutes les zones qui sont pour l'instant accessibles et qui sont particulièrement riches en biodiversité. Donc, on a pu définir 77 zones. Ça a été plusieurs workshops qui ont été menés. Et donc, à partir de ces 77 zones, on va justement mettre en avant l'intérêt et l'impérieuse nécessité de les protéger. Et pour ça, pour les protéger, ben, il va falloir faire des réglementations. Et avec le Conseil de l'Arctique notamment, on essaie de mettre tout ça en place. D'être vraiment, la Fondation, ça veut être un catalyseur pour justement pouvoir protéger cette zone qui tout d'un coup est ouverte à tous.
Il y a également un projet qui traite de la tropicalisation de la Méditerranée.
Alors voilà, c'est ce que je disais, hein, si le changement climatique a des impacts très forts au niveau de l'Arctique, il a évidemment un impact aussi au niveau de la Méditerranée. Clairement, c'est une mer qui est en train de se réchauffer. Donc il y a des espèces dites d'eau froide qui vont disparaître au profit de certaines espèces tropicales. Donc avec le CIUSM, qui est la Commission internationale d'études scientifiques de la Méditerranée, nous menons une étude pour justement identifier les espèces clés, faire un système d'alerte en fait, pour justement évaluer la vitesse justement de ces modifications climatiques qui évidemment ont un impact après au niveau des pêcheries et tout ce qui en découle.
Alors ce n'est pas une espèce dont vous avez choisi de nous parler, mais bien de deux espèces qui sont liées à deux projets soutenus par la Fondation Prince Albert II. Le premier, peut-être le plus connu, concerne le thon rouge.
Oui, alors tout à fait. Hein. C'est l'espèce emblématique de la Méditerranée, mais aussi l'espèce emblématique de la Fondation. Pourquoi ? Parce qu'on s'y intéressait dès le lancement de la Fondation. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est que tous les acteurs de la Principauté ont participé pour que cette protection du thon rouge, cette action monégasque, j'ai envie de dire, soit un succès. Juste pour expliquer, en fait, au départ, c'était un projet que nous menions avec le WWF pour justement essayer de définir, de marquer des thons, pour essayer de définir des sanctuaires. Et très rapidement, on s'est dit, mais la Fondation Prince Albert II ne peut pas protéger une espèce comme le thon rouge si dans les restaurants en principauté, on en consomme. Donc très rapidement et en partenariat avec l'association locale MC2D, nous avons mis en place une sensibilisation des restaurateurs qui a très bien fonctionné en fait. Tout le monde a voulu jouer le jeu et nous sommes devenus, on l'a découvert un jour dans la presse nationale française, le premier État sans thon rouge. Donc ça a été un beau succès médiatique. Et là-dessus, le gouvernement a décidé d'aller plus loin et d'essayer d'inscrire le thon rouge à l'annexe 1 de la CITES, c'est-à-dire en gros l'interdiction du commerce international. Alors, si j'ai encore le temps, en deux mots, comment s'est fini la CITES ? Pas très bien, puisqu'on n'a pas pu l'inscrire à l'annexe 1, puisqu'il y a les grands pays consommateurs de thon rouge, dont notamment le Japon, qui s'y sont opposés, qui ont fait un bon lobbying, qui a fait que le vote a été négatif. Mais par contre, grâce à cette action, le thon rouge est devenu un peu l'espèce emblématique de l'incapacité des États à s'accorder pour sauver une espèce, mais surtout c'est devenu l'espèce que personne ne peut ignorer, qui est en danger, et maintenant plus personne, s'il a une carte avec marqué du thon rouge, n'est censé ignorer le risque qui pèse sur cette espèce.
Est-ce qu'on peut, au-delà de la sensibilisation, mesurer peut-être les retombées de cette action ? Est-ce qu'il y a des chiffres, puisque le WWF continue à...
Absolument, nous continuons à travailler avec le WWF, justement sur la traçabilité, une fois que les thons rouges sont attrapés, parce que le problème, au-delà des quotas, c'est qu'il y a beaucoup de pêche illégale. Alors, c'est difficile de savoir. Là, les quotas, pour l'instant, ils sont à 12 900 tonnes, ou à peu près à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que y en a autant, si ce n'est plus, qui est toujours de la pêche illégale. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de continuer à surveiller et à essayer d'interdire la pêche illégale. Mais grâce à cette action, on s'aperçoit que même les pays consommateurs, maintenant, sont beaucoup plus vigilants. Et je pense que maintenant, c'est un succès. D'ailleurs, si on entend les pêcheurs locaux, ils disent on voit beaucoup de thons rouges qui réapparaissent. Alors, pour l'instant, c'est des petits thons rouges. Donc, il ne faut pas relâcher l'effort parce que, évidemment, la maturité sexuelle d'un thon rouge, c'est à plus de 7 années. Donc, il faut, une fois qu'on repêchera des thons rouges de grande taille, on pourra se dire vraiment que la bataille est gagnée.
Et la seconde espèce méditerranéenne qui focalise un peu votre attention en ce moment, c'est le phoque moine. Alors, à quoi ça ressemble ? Où ça vit ? Et quels sont les dangers qui l'encourent ?
Alors, à quoi ça ressemble ? Un phoque moine, ça ressemble à un phoque, mais seulement comme un phoque, j'ai envie de dire, comme on a l'habitude de le voir, notamment dans les zones polaires. Sauf que celui-là, il est méditerranéen. Il est presque sorti de notre mémoire parce qu'il a été massacré pendant des années, alors que quand on regarde toutes les gravures de l'époque, même à l'époque romaine, etc., on voyait qu'il y avait la Méditerranée était représentée avec des phoques moines partout. Et aujourd'hui, il en reste 300 à 500 individus en Méditerranée, essentiellement qui sont concentrés en Grèce. Donc c'est vraiment une espèce emblématique de la Méditerranée qui est vraiment là en danger critique d'extinction. Et la Fondation Prince Albert II a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps et d'essayer de sauver, pendant qu'il y a encore temps, cette espèce en Grèce.
Donc encore une fois, c'est avec le WWF qui est partenaire de ce projet. C'est un projet donc qui touche à l'îlot de Gyros. Comment s'articule ce projet ? En quoi il consiste exactement ?
Alors, en fait, c'est ce projet, cet îlot de Gyros, pendant de nombreuses années, c'était une zone militaire. Cet îlot servait justement pour faire des tirs d'essai. Et donc c'est une île complètement désolée, désolée pour les hommes, mais c'est un paradis pour les phoque moines qui ont pu y trouver la tranquillité pour justement se développer. Et donc on a une colonie importante de plus de 60 individus avec 10 jeunes de l'année. Et on sent vraiment qu'il y a un potentiel, il y a un potentiel pour que cette colonie puisse grandir et puisse ensuite coloniser justement tous les environs. Il y a vraiment quelque chose à faire et là le projet il va se faire avec les pêcheurs locaux, avec tous les responsables administratifs, tous les acteurs. Tous les acteurs vont être de la partie. Et c'est vraiment à cette condition que ce sera un succès. Hein. Et les gagnants, ça va être les pêcheurs locaux, puisque on va faire des inventaires, notamment, qui vont permettre de mettre en avant là, une zone Natura 2000, qui va permettre justement aux pêcheries industrielles de rester en dehors de cette zone, d'où l'intérêt pour les pêcheurs locaux de marcher dans ce projet et d'être les garants de sa réussite.
Quelques mots peut-être sur la Monaco Blue Initiative. Elle a été fondée en 2010 et bientôt il y aura la troisième édition. Donc c'est quoi, un club de réflexion, d'action ?
Alors voilà, hein, c'est un club de réflexion et d'action aussi, hein, parce qu'il faut pas s'arrêter hein, juste à la réflexion. Ce club, il regroupe, c'est son originalité, il ne regroupe pas que des scientifiques. Alors il y a des scientifiques bien sûr, mais il y a aussi des industriels, des économistes, parce que la mer, elle intéresse tout le monde. C'est le cœur d'énormément de choses et on pense que tout le monde a son mot à dire et tout le monde doit s'y intéresser. Petit à petit, la Monaco Blue Initiative a évolué justement vers comment promouvoir les aires marines protégées, parce qu'on sait que c'est sans doute la meilleure des solutions, et comment les développer pour justement que ça ne soit plus des aires marines de papier, comme on a tendance à les appeler, parce qu'elles n'ont pas les moyens de fonctionner. Et c'est pour ça qu'on veut intéresser tous les acteurs, pour justement donner une nouvelle dynamique et pouvoir atteindre les fameux 10% d'aires marines protégées sur la planète qui ont été annoncées à la COP10 de Nagoya. Et donc voilà, il y a beaucoup de travail et la Monaco Blue Initiative essaye de cette façon originale de trouver des solutions.
Donc prochaine édition en Corée, d'ici peu. Donc
voilà, prochaine édition 3-4 juin en Corée.
Avec sur la table, quel problème ?
Alors justement, là, évidemment, ce n'est pas du tout la même culture. Et on va essayer de comprendre justement comment, notamment en Asie, ils gèrent leur aire marine protégée. Donc il va y avoir un échange d'expériences. On aura beaucoup de choses à en tirer pour aller plus loin, communiquer, et essayer d'avoir une feuille de route commune pour augmenter et atteindre, on espère, un jour ces 10%.
Merci beaucoup Philippe Mondielli, vous avez choisi de nous faire découvrir un slam.
Absolument, donc c'est une chanson d'Abdel Malik, Nos de Grenelle. Alors c'est une chanson d'amour entre un homme et une femme, enfin pas tout à fait entre un homme et une femme, c'est en fait entre l'être humain et la planète Terre. Donc c'est très très beau, c'est très 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 vrai. Il faut attendre la fin de la chanson pour comprendre qu'il s'agit de la planète Terre. Bon là je vous l'ai dit avant, mais... Et c'est des phrases très fortes, je vous en dis juste une parce que je l'ai gardée. J'étais supposé, censé prendre soin de toi, du toi théoïté, hein, que tu as été dans cette vie où je n'ai vu que moi. Ce qui montre bien un peu l'égoïsme de l'homme qui ne pense qu'à lui et qui ne voit pas que celle-là, la planète à qui il doit tout, elle est là et elle doit être prise vraiment en considération et respectée.
On l'écoute, merci beaucoup Philippe.
Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu ? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a rompu sans savoir pourquoi, sans savoir pour moi, je ne sais toujours pas pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend quand c'est fini. N'est-ce pas ici pourtant qu'avait élu domicile la vie ? N'étions-nous pas, j'étais supposé, censé prendre soin de toi, du toi que tu as été dans cette vie où je n'ai vu que moi ? Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu ? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a tenu aussi longtemps qu'on a pu, toi et moi, sans savoir pourquoi. Je parle pour moi, tu as toujours su, pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours quand c'est fini. N'étions-nous pas pourtant faits l'un pour l'autre ? Nous étions supposés être faits l'un par l'autre. Du nous sommes, par égoïsme, j'ai dit je suis. Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu ? peut-être, pour nous laisser une chance, peut-être, pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu, lorsqu'il sera trop tard. On s'est battu pour je ne sais quoi sans voir qu'au fond je n'étais victime que de moi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours quand c'est fini. N'était-ce pas ici qu'avaient fleuri ces cœurs? N'est-ce pas ici que nos âmes devinrent sœurs? Pourquoi ai-je lâché ta main et pris celle de la folie? Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu, lorsqu'il sera trop tard. Planète Terre.